Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
C'est le premier journal de cette matinée. Bonjour Lénaïck Meunier.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 6h.
D'avoir pu rester, c'est inespéré.
Un vrai moment de bonheur, de soulagement.
C'était juste incroyable.
L'immense privilège des spectateurs de Roland-Garros, ils ont assisté au-delà du couvre-feu à la victoire de Djokovic sur Nadal en demi-finale.
Près de 30 millions de Français ont reçu leur première dose de vaccin. La Seine-Saint-Denis qui veut rattraper son retard vaccine aujourd'hui dans un centre commercial.
Dans ce journal également, une marche contre l'extrême droite aujourd'hui en France. La gauche défile en ordre dispersé.
Nous irons à la rencontre d'Algériens. L'abstention s'annonce record pour les législatives anticipées. Nous dirons pourquoi.
Et puis à la fin de ce journal, de la musique, c'est la fête des disquaires aujourd'hui.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un match qui va rester dans l'histoire de Roland-Garros. Novak Djokovic a renversé Rafael Nadal en demi-finale.
Plus de 4 heures de jeu et 4 sets, voilà ce qu'il a fallu au numéro 1 mondial pour se défaire du roi de la terre battue. Privé donc d'un 14e sacre devant un public doublement ravi, puisqu'il a vu le plus beau match de la quinzaine et qu'il a pu rester au-delà du couvre-feu. Corinne Boulou.
Les encouragements du public n'ont pas suffi. À 23h20, le roi Nadal rend les armes au terme d'un combat d'anthologie de plus de 4 heures que les spectateurs ont pu suivre jusqu'à son terme grâce à une dérogation accordée en dernière minute par les plus hautes autorités.
D'avoir pu rester déjà, c'est inespéré.
Au début, on n'a pas compris parce qu'il y avait tellement de bruit dans l'enceinte qu'on n'a pas entendu vraiment, mais pour essayer de confirmer auprès des autres. C'était un vrai moment de bonheur, de soulagement.
C'était juste incroyable.
Dans une ambiance électrique, Novak Djokovic réussit l'impensable. Rafael Nadal est éliminé dès les demi-finales. Sa première défaite depuis 6 ans. Le patron de Roland-Garros, Guy Forget, en était le premier surpris.
On est sous le choc parce que battre Rafa comme cela à la régulière, à la force du poignet, avec des points monumentaux, et Novak Djokovic, pour la deuxième fois, a réussi cet exploit. Les 5000 personnes qui étaient dans le stade ce soir ont vraiment pris conscience qu'ils ont vécu quelque chose de rare.
Et c'est donc une finale Djokovic-Tsitsipas qui aura lieu demain dimanche.
Et aujourd'hui, place à la finale dames. On en reparle avec Axel May à 8h dans le journal de Roland-Garros.
Public ravi, Rome également hier soir.
Oui, au stade olympique où se tenait le match d'ouverture de l'Euro 2020 avec un an de retard. Donc l'Italie devant 16 000 supporters a battu la Turquie 3-0.
On le disait à l'instant, Lénaïck, le public de Roland-Garros a eu le droit de rentrer chez lui au-delà du couvre-feu.
Mais ailleurs, c'est à 23h qu'il fallait être à la maison. Et pourtant, hier soir, une fête géante s'est déroulée en plein Paris après un appel lancé sur les réseaux sociaux. Des centaines de jeunes sans masque la plupart du temps. Les forces de l'ordre sont intervenues une vingtaine de minutes après le couvre-feu et le calme est revenu aux Invalides avant minuit.
Et en parallèle, le cap des 30 millions de primo-vaccinés approche.
Oui, avec une autre nouvelle encourageante. La France est repassée depuis hier soir sous la barre des 5000 cas positifs quotidiens. Bonjour Victor Dolande, ça y est, tous les indicateurs sont au vert.
Oui, avec moins de 5000 nouveaux cas par jour, la France revient à un niveau qu'elle n'avait plus atteint depuis août dernier. Baisse des contaminations et forcément chute des hospitalisations. 13 000 patients Covid sont actuellement dans les hôpitaux français, en baisse de 15% sur la dernière semaine. Des bons chiffres dus notamment aux effets du dernier confinement, aux gestes barrières bien respectés par les Français, à la saisonnalité du virus et à l'accélération de la campagne de vaccination, comme l'explique l'infectiologue Benjamin Davido.
C'est l'efficacité insolente de cette vaccination. Je crois qu'il faut le dire, et qu'on va se diriger probablement vers un contrôle extrêmement rapide d'une pandémie. En tout cas, principalement pour les pays qu'on peut appeler industrialisés et riches qui ont pu se fournir cette vaccination.
Les épidémiologistes veulent tout de même rester vigilants avec seulement 20% de Français qui ont reçu leurs 2 doses de vaccin. On est encore très loin de l'immunité collective. Il faut donc continuer à observer les gestes barrières et accélérer la vaccination pendant l'été.
Les précisions de Victor Dolande pour Europe 1.
Et bien justement, la Seine-Saint-Denis, elle accélère ce matin avec un centre de vaccination assez insolite.
Oui, c'est le centre commercial Rony 2. Une piqûre entre 2 séances de shopping, pas besoin de prendre rendez-vous. Et surtout, comme le lieu est très fréquenté, le département espère rattraper son retard. Laura Taouchanoff.
Ce village vaccinal en plein centre commercial doit d'abord attirer ceux pour qui la fracture numérique est un frein à la prise de rendez-vous. C'est le cas de Camara. S'il a finalement réussi à se faire vacciner, c'est uniquement grâce aux actions du Secours populaire.
Oh, on a cherché un peu partout. Hein. Je n'utilise pas l'Internet. C'est grâce au Secours populaire, c'est eux qui m'ont aidé à voir le créneau.
Il y a aussi la barrière de la langue en Seine-Saint-Denis avec une forte diversité. Alors cette opération promet de simplifier le parcours jusqu'à l'injection. Plus de proximité, moins d'état. handicap. Samia, par exemple, ne savait pas qu'elle était éligible.
Les papiers ne sont pas un obstacle pour faire le vaccin. Car toujours, si on veut, on peut. Ça ne fait pas. Ça, c'est bien pour moi. Une information de plus.
Avec ce village vaccinal, la Seine-Saint-Denis continue à essayer de rattraper son retard, explique Stéphane Troussel, le président du département.
En raison d'inégalités d'accès à la santé et au parcours de soins, eh bien, nous pensons qu'il faut démultiplier encore l'action et nous voulons aller encore plus loin avec du 100 rendez-vous. Toute action, petite ou grande, elle est, de mon point de vue, essentielle dans le combat contre l'épidémie.
Dans 6 semaines, le village vaccinal se réinstallera dans ce centre commercial de Rosny 2 pour effectuer tous les rappels.
Et ce sont 500 injections qui sont espérées pendant le week-end.
On en revient à présent à cette marche contre l'extrême droite cet après-midi.
Partis politiques, syndicats, associations, une centaine d'organisations se mobilisent et avec la semaine qui vient de s'écouler, la gauche marchera, mais en ordre dispersé, Claudia Bertram.
L'actualité récente nous montre qu'on a encore plus raison de faire ça, estime le député insoumis Éric Coquerel, co-initiateur de l'événement, en référence à la vidéo du youtubeur Papacito et à la gifle reçue par Emmanuel Macron. Mais l'organisation de cette marche a été laborieuse. Certains partis politiques rechignent d'abord à signer l'appel. Finalement, ils marcheront tous, mais chacun dans son coin. Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et le patron des Verts, Julien Bayou, défileront à Paris. Son homologue PS, Olivier Faure, a choisi Avignon, pendant que le communiste Fabien Roussel sera à Lille. Une dispersion qui illustre la division des forces de gauche. Division encore accentuée par les propos polémiques de Jean-Luc Mélenchon le week-end dernier, liant terrorisme et élection présidentielle que tout le reste de la gauche a condamné. Bref, un insoumis ne s'en cache pas. Cette manifestation commune n'augure pas d'une union de la gauche. Certains viennent en traînant des pieds.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1.
6h06, Lénaïque Monnier, le deuxième jour du procès de Bruno Garcia aux assises de Haute-Corse-Sébastien maintenant.
Et une journée particulièrement éprouvante hier. L'accusé a continué de nier la préméditation dans l'assassinat de Julie Douib. Marion Dubreuil, vous suivez le procès pour Europe 1. Hier, la position de l'accusé a été sérieusement fragilisée.
Oui, avant de diffuser les enregistrements sonores de Julie, la présidente met la famille en garde. Monsieur Douib, vous devriez sortir. Non, je veux rester. On va enfin savoir ce qu'il a fait à ma fille. On entend d'abord la voix de l'accusé, le ton est menaçant. Arrête de faire la mariole, je vais prendre ta tête, tu vas voir. Et puis celle de Julie qui l'implore, va-t'en s'il te plaît. Sur un autre enregistrement, Bruno Garcia la menace. Tu vas comprendre comment je m'appelle. Il y en a une qui a fait la mariole, elle a pris des gifles devant le Café de la Paix. Il fait référence à son ex qui l'a agressée violemment en public en 2005. Elle avait déposé plainte à l'époque. Dans son box, Bruno Garcia est impassible. Lucien Douib le fixe obstinément. Le public est au bord des larmes. Dans un autre extrait, l'accusé la traite de chaudasse et la prévient, ça va mal finir, t'es vraiment une clocharde. Et soudain, la voix d'un enfant surgit. Tu vas partir, maman ? Mais non, n'importe quoi, bébé, répond Julie en sanglotant. Écoute-moi, maman, jamais elle s'en va, jamais elle te laisse. Il pourra faire tout ce qu'il veut, maman, elle te laissera jamais.
Les précisions de Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Le procès reprend lundi.
L'actualité à l'étranger, ce sont les élections législatives en Algérie.
Des élections anticipées qui ne mobilisent pas les foules. Elles sont même rejetées par le mouvement contestataire du Irak et même une partie de l'opposition. Mathieu Bock a pu joindre des Algériens qui nous disent justement pourquoi ils ne se rendront pas aux urnes aujourd'hui.
Je ne suis pas concerné par ce vote, parce que c'est un vote comique. On vote pour changer quelque chose, pour créer une chose, mais pas voter pour voter. C'est ça. On aime bien notre pays, on est fan de notre pays, mais c'est pas comme ça. On veut avancer, on veut faire un pas en avant.
J'ai jamais voté et je voterai jamais. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît personne. On ne connaît personne, ni le député, ni le groupe. Il y a une Algérie qui marche avec un système et le peuple avec un autre système. Voilà. C'est deux choses différentes. Et c'est comme ça. C'est comme ça l'Algérie. Ça a été depuis toujours et ça restera depuis. Inch'Allah, ça ne va pas rester longtemps comme ça, mais c'est ça.
Et propos recueillis par Mathieu Bock pour Europe 1. Au Mali, le principal suspect dans le rapt et l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les deux journalistes de RFI enlevés et tués par Acme en 2013, est mort. Il a été tué samedi dernier par une frappe française dans le nord du Mali.
Vous êtes fan de vieux vinyles, ça tombe bien, c'est un peu leur fête aujourd'hui.
Oui, c'est le Disquaire Day, l'occasion d'aller chiner des pépites chez les disquaires, comme à Grand Zéro, où d'ailleurs s'est rendu pour Europe 1 Angèle Châtelier.
Je viens chercher 3 disques, c'était Nirvana.
Aujourd'hui, le disquaire parisien Grand Zero sera plein à craquer d'amateurs de vinyle, comme chaque année au Disquaire Day, car c'est toujours l'occasion d'enchiner des inédits, des rares ou des rééditions. Franck Pompidor, co-gérant du disquaire, a toujours ses pépites.
Cette année, il y a encore beaucoup de disques. Il y a un groupe que j'aime bien qui s'appelle La Femme, qui sort un maxi avec deux titres inédits. On a la chance d'avoir le groupe qui nous dédicace les disques. J'aime bien aussi un autre artiste français que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bertrand Burgala. Ce serait charmant. C'est un disque qui est sorti au début des années 2000. Il était plus du tout disponible. C'est une bonne idée de l'avoir édité.
Et là, j'en vois un dernier, The Thrills.
Alors ça, c'est un groupe californien dont on n'a plus jamais entendu parler. Je crois qu'ils ont fait que deux albums. C'est vraiment un disque de sunshine pop, parfait pour l'été, avec il y a plein vraiment de tubes dedans.
Et le discardé est crucial pour les quelques 300 disquaires indépendants de France. Chaque discardé représente le même chiffre d'affaires qu'un mois de décembre quand on veut offrir des vinyles à Noël.
Fan de vinyle ?
J'aime bien les vinyles, mais je suis très CD. J'adore le son des CD.
Le son chaud. On dit souvent que le CD, c'est un son chaud et le vinyle, c'est un son froid.
Oui.
Bon, c'est un peu comme les photos. Ma chère Lénaïque, je vous retrouve dans une heure. Et
vous êtes choquée, là,
sera...
je crois, avec mes CD.
Pas du tout, pas du tout. Je suis un peu comme vous et du coup, on me prend pour un dinosaure. Mais c'est pas grave. Sébastien Guyot revient à 6h30 pour un journal.